Que se passe-t-il au Moyen-Orient? Il semble que cette région du globe fasse continuellement la une des journaux. En ce qui concerne les efforts déployés en vue d'y établir la paix, les rebondissements se succèdent et les espoirs déçus ne se comptent plus. La Bible rapporte que le sort de cette région aura une incidence sur l'avenir du monde entier. Il faut donc surveiller l'évolution rapide de cette situation. Mais que faut-il surveiller au juste? Après plus d'une décennie d'engagement militaire en Irak, les dirigeants occidentaux ont été surpris par la montée rapide de l'État islamique, qui rejette les frontières centenaires tracées par les Britanniques et qui cherche à établir un État musulman régi par la charia. Ses partisans sont très actifs et n'hésitent pas à faire couler le sang pour diffuser leur cause et déstabiliser davantage cette région troublée. D'ailleurs, le Moyen-Orient semble être constamment le point chaud des conflits mondiaux. Cette région connaîtra-t-elle un jour la paix? La Bible révèle que la paix mondiale sera établie à Jérusalem et sur la planète entière lors du retour de Jésus-Christ. Mais elle affirme aussi que cette époque sera précédée d'une période de guerre et de souffrance comme le monde n'en a jamais vu. Les signes précurseurs de ces événements douloureux seront bientôt visibles. Même au milieu des combats et de la dévastation, si nous connaissons ces signes, nous pourrons placer notre espoir et notre confiance en Dieu qui a promis d'établir la paix. Dans cette émission, nous examinerons 5 signes prophétiques clés que nous devrions tous surveiller. Que vous le réalisiez ou non, pour l'instant, les grands événements qui se dérouleront au Moyen-Orient vont vous affecter directement, vous et vos proches. Restez à l'écoute. Salut à vous! L'avenir des nations semble imprévisible, alors que le concert cacophonique des dirigeants du monde porte certaines personnes à l'angoisse de ce qui surviendra. Heureusement, les prophéties contenues dans la Bible révèlent avec précision ce qui arrivera dans un avenir rapproché. Le Dieu de la Bible déclare « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Aucun être humain n'est capable de révéler l'avenir et de faire en sorte qu'il se concrétise. Seul le Dieu Tout-Puissant, qui soutient toutes choses par sa parole, peut accomplir un tel exploit. Les prophéties bibliques consignées par les prophètes de Dieu dans sa parole, la Bible, permettent d'identifier 5 signes particuliers qui seront visibles juste avant le retour de Jésus-Christ et l'établissement sur terre du royaume de Dieu, lequel garantira aux humains la paix et l'harmonie tant désirées. Voyons quels sont ces signes. Premier signe, une alliance militaire à l'est de l'Euphrate. Il y a déjà plusieurs années, lors de la guerre Iran-Irak, l'Euphrate était au cœur d'un conflit à la fois territorial et politique. L'un des principaux enjeux était le contrôle de la navigation sur le Chatt el-Arab, une portion du Tigre et de l'Euphrate qui longe la frontière Iran-Irak sur plusieurs kilomètres avant de se jeter dans le golfe Persique. La Bible nous montre qu'au temps de la fin, l'Euphrate sera de nouveau au cœur des événements. Elle mentionne que pendant le jour du Seigneur prophétisé, c'est-à-dire l'année qui précédera le retour de Jésus-Christ sur la terre, une immense armée de 200 millions de soldats venus de l'Est traversera ce fleuve et marchera sur le Moyen-Orient. Le livre d'Apocalypse déclare « Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. » L'Euphrate est un élément déterminant de cette prophétie. Voyons comment l'apôtre Jean décrit ce conflit qui détruira un tiers de la population mondiale. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Quelles sont donc les puissances mondiales qui se trouvent à l'est de l'Euphrate? Regardez sur une carte. Vous y verrez des nations comme l'Iran, l'Inde, la Chine et la Russie. Soyez attentifs au développement militaire et aux alliances internationales de ces pays. Ils investissent de plus en plus dans leur arsenal militaire, y compris dans les armes nucléaires. Deuxième signe, une grande unité parmi les ennemis traditionnels d'Israël. En juin 1967, Israël déclencha la guerre des six jours. Seul contre les forces égyptiennes, syriennes et jordaniennes, Israël s'empara de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Cette victoire permit à la nation d'avoir accès aux anciens lieux saints de Jérusalem, dont fait partie le mur des Lamentations au mont du Temple. À la fin de la guerre, Israël proposa de rendre le contrôle de la Cisjordanie aux Palestiniens à condition qu'ils lui accordent un droit de propriété entier et exclusif sur la ville de Jérusalem. Le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, se joignit à ses voisins arabes pour répondre non à l'offre d'Israël d'échanger un territoire contre la paix. Puis, en octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquèrent l'État hébreu. L'armée égyptienne, alors dirigée par Hosni Moubarak, franchit le canal de Suez et surprit les défenses israéliennes. Pendant cette guerre appelée « guerre du Kippour », car elle avait débuté le jour même de la fête juive du Yom Kippour, Israël repoussa les assauts de l'Égypte et de la Syrie. Finalement, ces trois pays acceptèrent le cessez-le-feu proposé par les Nations unies, ce qui mit un terme au conflit. Depuis lors, il y eut des frappes militaires sporadiques, ainsi que des années d'intifada, un mot arabe qui signifie « soulèvement », pendant lesquelles les Palestiniens ont opposé une résistance parfois sanglante à l'autorité d'Israël qu'ils considèrent comme injuste. Les combats et les effusions de sang se sont aussi poursuivis entre les factions rivales palestiniennes. Toutefois, l'histoire montre que malgré leurs querelles internes, les combattants arabes n'ont jamais hésité à unir leurs forces pour se battre contre Israël. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a souvent menacé de rayer de la carte l'État d'Israël. Son successeur, Hassan Rouhani, semble plus modéré, mais il faut surveiller la situation de près. Alors que les disputes traditionnelles entre les Arabes et les musulmans se poursuivront, vous verrez l'union grandissante de ces forces contre Israël. La Bible montre qu'un roi du Sud à venir réussira à unir plusieurs nations arabes et que cette force combinée sera perçue comme une menace par le roi du Nord, c'est-à-dire l'Europe unie, formant alors un véritable empire. Cela intensifiera encore les querelles autour de Jérusalem. Le prophète Daniel le mentionne. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Ces événements provoqueront un conflit qui secouera notre monde. Toutefois, ceux qui étudient la Bible reconnaîtront là un signe annonçant l'imminence du retour de Jésus-Christ.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pouvez également utiliser notre boîte vocale au 1-800-857-2064 et nous vous rappellerons dès que possible.
Loin de se régler, la situation au Moyen-Orient va continuer de s'envenimer. Considérant les forces terroristes en présence, on peut facilement l'imaginer. Il importe donc de connaître les autres signes. Troisième signe, des tentatives internationales pour contrôler Jérusalem. D'un point de vue historique et religieux, Jérusalem est une ville importante pour les partisans du judaïsme, de la chrétienté et de l'islam. Toutes ces religions la considèrent comme le théâtre des événements majeurs de leur foi. Pour les Juifs, par exemple, c'est la ville des grands prophètes et la capitale du royaume d'Israël et de Juda sous le règne du roi David et celui de son fils, le roi Salomon. Notez que le temple de Salomon, appelé aussi le premier temple, a constitué pour la nation de Juda le principal lieu d'adoration jusqu'à sa destruction par les Babyloniens au moment où le peuple fut amené en captivité. Après leur libération, les Juifs sont revenus à Jérusalem pour bâtir le second temple qui devint à son tour le principal lieu d'adoration des Juifs jusqu'à sa destruction par les armées romaines en l'an 70 de notre ère. Or, Jérusalem est aussi considérée par l'islam comme son troisième lieu le plus saint après la Mecque et Médine. Le Dôme du Rocher, appelé aussi la Mosquée d'Omar, domine le mont du Temple depuis plus de 1400 ans et il est le plus ancien bâtiment religieux musulman. Les musulmans se réfèrent au mont du Temple en le nommant Haram el-Sharif, ce qui signifie « le noble sanctuaire ». Ils croient qu'au Dôme du Rocher, le prophète Mahomet fut enlevé dans les cieux en compagnie de l'ange Gabriel. De leur côté, les chrétiens voient Jérusalem comme la ville où Jésus-Christ a été crucifié, puis ressuscité. Ils la voient aussi comme le lieu prophétisé de son second avènement, quand ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. Voyons comment cet événement à venir a été décrit par le prophète Zacharie. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Depuis très longtemps, l'importance de Jérusalem pour ses trois grandes religions a fait de l'administration de cette ville le sujet de vives controverses. Bien qu'Israël en contrôle les versants Est et Ouest depuis 1967, de nombreux gouvernements souhaitent une administration internationale de cette ville. Le premier plan de partage de la Palestine, rédigé par les Nations unies en 1947, résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU, proposait que Jérusalem soit traitée comme un corpus separatum, c'est-à-dire une zone placée sous contrôle international. Bien que ce statut n'ait jamais été mis en application, beaucoup espèrent de nos jours la mise en place d'une telle solution. En 1984, dans une lettre apostolique, Redemptionis Anno, le pape Jean-Paul II avait exprimé son espoir de voir Jérusalem bénéficier d'un statut spécial international garanti. Qui pourrait garantir ce statut? Dès 1975, le secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait suggéré que le contrôle des lieux saints et l'administration religieuse de cette ville soient confiés au pontife de l'Église catholique romaine. Qu'arrivera-t-il au juste? La Bible révèle que les événements prendront une tournure stupéfiante et que Jérusalem ne sera plus contrôlée par Israël, mais par d'autres puissances gouvernementales. L'apôtre Jean a écrit « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations » et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Oui, Jérusalem sera contrôlée par des nations étrangères pendant 42 mois, avant le retour de Jésus-Christ. Une grande puissance mondiale, décrite comme la bête dans le livre d'Apocalypse, envahira le Moyen-Orient et prendra le contrôle de Jérusalem pendant 3 ans et demi. Durant cette période, deux prophètes de Dieu rendront un puissant témoignage et ils s'opposeront à la force étrangère qui dominera le Moyen-Orient. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Il y aura affrontement entre les forces de la bête et les deux serviteurs que Dieu aura choisis pour effectuer cette prédication tout à fait spéciale. Quatrième signe, la restauration des sacrifices d'animaux à Jérusalem. Si vous avez lu les écrits de Daniel et de Matthieu dans la Bible, vous vous êtes peut-être interrogé sur la mystérieuse abomination de la désolation qui y est mentionnée. De quoi s'agit-il? Quel est son rôle dans les prophéties du temps de la fin? Considérons d'abord les paroles du Christ. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Assurément, il importe de savoir de quoi il s'agit, car cet événement signale au peuple de Dieu le moment de fuir pour échapper aux 3 ans et demi de catastrophes prophétisées. L'histoire rapporte qu'en 167 avant Jésus-Christ, le dirigeant grec Antiochus Épiphane a promulgué un décret interdisant aux Juifs de poursuivre les sacrifices du Temple. Cet événement avait été annoncé par le prophète Daniel, qui l'a décrit comme une abomination dévastatrice. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Antiochus fit non seulement cesser les sacrifices quotidiens, mais il érigea aussi dans le temple une statue de Jupiter olympien et obligea la foule à l'adorer. Cet événement préfigurait un événement semblable devant s'accomplir au temps de la fin, à notre époque. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Ainsi, 1290 jours avant le second avènement de Jésus-Christ, les sacrifices quotidiens s'arrêteront de nouveau. Jésus nous conseille d'être à l'affût afin de reconnaître l'abomination de la désolation qui sera dressée au temps de la fin. Car, comme Antiochus Épiphane a autrefois profané le temple et fait cesser les sacrifices, une autorité laïque fera elle aussi, dans le futur, cesser les sacrifices juifs. L'apôtre Paul nous prévient qu'un faux prophète se tiendra dans le lieu saint. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cet homme accomplira de grands prodiges et des miracles étonnants, allant même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, et il induira beaucoup de gens en erreur. Voyez ce que l'apôtre Jean écrit au sujet de ce faux prophète, qu'il nomme l'autre bête. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. » Nous devrons faire attention pour ne pas nous laisser séduire par les prodiges accomplis par le faux prophète. Nous devrons plutôt mettre en pratique ce précieux conseil que nous donnent les Écritures. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Considérant que les sacrifices vont de nouveau s'arrêter, et sachant que les Juifs n'offrent plus de sacrifices d'animaux depuis que les Romains ont détruit le temple en l'an 70 de notre ère, il est évident que ces sacrifices devront d'abord recommencer. Aussi, quand les sacrifices d'animaux reprendront à Jérusalem, vous saurez que les autres prophéties annoncées par le Christ seront sur le point de s'accomplir. Surveillez la reprise des sacrifices d'animaux en Israël. Le temple n'a pas nécessairement besoin d'être reconstruit pour l'occasion. En effet, au temps du sacrificateur Esdras, quand les Juifs sont rentrés de leur exil à Babylone, les sacrifices quotidiens ont repris, avant même que le temple soit rebâti. Le livre d'Esdras montre qu'ils allaient à la maison de Dieu avant qu'il y ait un temple où offrir les sacrifices. Ce livre rapporte « Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. » Les fondements du temple ont été posés plus tard. De nos jours, seuls les musulmans sont autorisés à adorer au mont du temple. Et le lieu le plus saint contrôlé par les autorités religieuses juives est le mur des Lamentations. D'une manière ou d'une autre, les sacrifices vont reprendre. Nous saurons bientôt où et quand. Une grande crise nationale en Israël pourrait d'ailleurs précipiter cet événement. En temps de guerre ou de conflit, il est très important de pouvoir identifier des points de repère. À cet égard, les signes prophétisés dans la Bible constituent des repères très fiables.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pouvez également utiliser notre boîte vocale au 1-800-857-2064 et nous vous rappellerons dès que possible.
Nous avons vu qu'avant le retour de Jésus-Christ, les ennemis d'Israël vont s'unifier et assiéger cette petite nation. Nous avons vu qu'une action sera menée pour enlever le contrôle de Jérusalem des mains d'Israël et le placer sous administration internationale. Nous avons vu que cette crise conduira les religieux juifs à restaurer les sacrifices d'animaux. Quel autre signe devrons-nous encore surveiller? Cinquième signe. Une superpuissance européenne prendra le contrôle de Jérusalem. La Bible montre que, peu de temps avant le retour de Jésus-Christ, une superpuissance européenne prendra le contrôle de Jérusalem. Le prophète Daniel a écrit l'ascension d'une puissance du sud qui s'opposera à cette puissance du nord. Au temps de la fin, le roi du Midi, roi du sud, se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion, roi du Nord, fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il, le roi du Nord, entrera dans le plus beau des pays, la Terre Sainte, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Le roi du Nord entrera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire la Terre Sainte, là où se situe l'actuel État d'Israël. Les érudits bibliques identifient Ammon, qui sera délivré de la main du roi du Nord avec Édom et Moab, comme étant l'actuelle Jordanie, portant à croire que les Jordaniens s'allieront à la puissance européenne. Qui fera partie de l'alliance contre Israël? Dans le psaume 83, il est écrit « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. » La Syrie, l'Allemagne actuelle, conclura une alliance avec Moab, Ammon et Édom. Regardez les cartes dans votre Bible pour trouver les emplacements historiques de ces tribus. Que nous apprennent les Écritures sur le roi du Nord? Nous avons vu qu'il est aussi appelé la bête. Mais qui est la bête? Dans un commentaire à propos de la bête mentionné dans Apocalypse 17, la version de la Bible Douay-Rheims, New Catholic Edition, rapporte ceci. La bête dont il est question ici semble être l'Empire romain, comme au chapitre 13. En d'autres termes, ce commentaire affirme que la bête d'Apocalypse 17 et celle d'Apocalypse 13 représentent toutes deux l'Empire romain ressuscité. Remarquez ce que déclare aussi cette Bible catholique. L'image de la première bête est basée sur le chapitre 7 de Daniel. Cette bête symbolise les royaumes du monde, des royaumes fondés sur la convoitise et l'égoïsme, qui de tout temps se sont opposés au Christ et cherchent à opprimer les serviteurs de Dieu. La Rome impériale représente cette puissance. Oui, la bête est une résurgence de l'ancien Empire romain. Si vous surveillez les événements mondiaux, vous aurez peut-être remarqué que l'Union européenne développe les mêmes caractéristiques politiques, économiques et militaires que l'Empire décrit dans les Écritures. Notre rôle est de vous avertir de ce qui vient. Alors que nous approchons de la grande tribulation, les véritables chrétiens seront de plus en plus persécutés. Mais Jésus nous enseigne comment réagir quand la persécution religieuse s'intensifie. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Nous vivons actuellement à l'époque prophétisée des temps de la fin. Nous devons nous préparer pour le second avènement du Christ. Il sera le roi de toute la terre. Il règnera depuis la nouvelle capitale mondiale, Jérusalem. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission « Le monde de demain ». Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties des temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station.
Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». Cette publication gratuite explique pourquoi Jérusalem est et continuera d'être au cœur des faits saillants de l'actualité. Vous pouvez également utiliser notre boîte vocale au 1-800-857-2064 en nous laissant votre numéro de téléphone ainsi qu'un bref message et nous vous rappellerons dès que possible. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse Le Monde de demain, boîte postale 409, Mississauga, Ontario, L5M0P6, Canada. Notre site internet www.mondedemain.org vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs.
Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.